Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h heure de Paris, 9h, temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous donne la parole d'abord, comme tous les matins évidemment, afin que vous puissiez nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien appelez-nous, rejoignez-nous, un numéro de téléphone, le 33 9 693 693 70, 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, par courrier électronique. N'oubliez pas, évidemment, de nous envoyer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, car cette émission est avant tout la vôtre et on a surtout envie de vous entendre. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur un sujet qui fait polémique d'ailleurs en République démocratique du Congo, la loi d'amnistie. C'était l'un des engagements pris en décembre dernier par le gouvernement lors de la signature marquant la fin des pourparlers avec les rebelles du M23. Eh bien, samedi dernier, la justice a publié la liste des 50 premiers amnistiés. Alors, il s'agit essentiellement d'anciens membres de groupes armés et parmi eux, il y a donc une quinzaine de membres du M23. Alors, que pensez-vous de ces amnisties? Permettront-elles de consolider la paix, de favoriser la cohésion nationale, comme l'affirment les autorités, ou faut-il y voir une prime à l'impunité, une prime à la guerre, comme l'ont dénoncé plusieurs ONG? Là aussi, vos témoignages nous intéressent, vos commentaires. 33 9 693 693 70. Je jette un coup d'œil sur la page Facebook de l'émission, sans commentaire, voilà, sans commentaire pour l'instant posté. J'en lirai évidemment quelques-uns et vous pouvez débattre entre vous sur les réseaux sociaux. Nous passons donc au standard avec une première question qui nous vient du Sénégal. Nous allons à Richard Toll exactement, c'est au nord du pays. Bonjour Mokhtar.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue. Alors vous avez plusieurs questions concernant les déboires de General Motors, le constructeur automobile américain.
Oui, effectivement, oui. Bonjour Juan et salut à tous ceux qui prêtent l'oreille attentive à la RFI.
Alors on va essayer de tendre l'oreille parce que le réseau n'est pas bon. Il y a des interférences sur le réseau de téléphone. On vous écoute.
Ok. Il y a une semaine, General Motors a effectué une reprise de millions de voitures à travers le monde, et ce en moins de 2 jours d'intervalle. Des reprises liées notamment à des accidents mortels dus à des pièces défectueuses. Mmh. Et là, voici ma première question.
Ouais.
Des reprises en 4x4 ne risquent-elles pas de plomber financièrement General Motors?
Les conséquences économiques, est-ce que ça ne risque pas de plomber? Le réseau n'était pas bon, Mokhtar, essayez de vous déplacer, je sais que vous avez d'autres questions. C'est vrai que l'heure est grave hein, chez General Motors, puisque le groupe a rappelé tout de même 7 millions de véhicules. Eridel Temma est à mes côtés. Bonjour Eridel.
Bonjour Anne.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service éco de RFI. 7 millions de véhicules rappelés en l'espace de quelques jours, quelles peuvent être les conséquences économiques et financières pour General Motors?
Alors Juan, il faut d'abord dire que depuis le début de l'année, on compte 2 vagues de rappels. La première entre la mi-février et la fin mars 2014. Elle concerne une pièce appelée commutateur d'allumage sur 2,6 millions de Chevrolet, de Cobalt, de Pontiac 5, de Saturn et de Solstice, vendus entre 2003 et 2011. Il faut ajouter une seconde vague de 4 millions de véhicules supplémentaires rappelés depuis janvier 2014 pour différents problèmes techniques, dont certains liés à la direction assistée.
Et comme le disait Mokhtar à l'instant, c'est vrai que ces problèmes techniques ont provoqué tout de même plusieurs accidents. Dont 32, dont 13 mortels. Est-ce que ça signifie, Eridel, que la facture sera salée pour General Motors?
Et alors, ces quelques 7 millions de rappels devraient coûter près d'1,7 milliard de dollars à General Motors et risquent en effet de diminuer les bénéfices trimestriels du constructeur. Mais globalement, cela ne devrait pas affecter le bilan de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires fin 2013 atteignait plus de 155 milliards de dollars. D'ailleurs, l'action General Motors n'a pas vraiment perdu de sa valeur en bourse et le constructeur a annoncé le 10 avril qu'il prévoyait d'enregistrer une performance solide au premier trimestre 2014.
Donc tout va bien pour General Motors. Vous aviez une autre question, Mokhtar?
Comment expliquer qu'il y ait un plus grand nombre de véhicules défectueux?
Alors, un si grand nombre de véhicules défectueux. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des tests? Enfin, on imagine que les voitures, avant d'être lancées sur le marché, sont testées.
Tout à fait. Aux États-Unis, comme dans la majorité des pays développés, les voitures sont homologuées avant d'être mises en circulation. Des organismes gouvernementaux, comme l'Agence de sécurité routière, NHTSA, ou privés, comme l'AMECA, sont chargés d'organiser les essais réglementaires, crash tests y compris, avant de mettre un véhicule sur le marché. Les voitures du groupe General Motors sont forcément dues passer par cette étape. L'agence de sécurité routière est d'ailleurs aujourd'hui accusée par le Congrès américain d'avoir en 2007 et 2010 manqué deux occasions d'ouvrir une enquête sur les problèmes liés à la clé de contact de certains modèles. Mais le fond du problème est surtout de savoir pourquoi la direction de General Motors, pourtant informée des problèmes depuis 10 ans, n'a pas réagi. Pire encore, le groupe a continué d'équiper ses véhicules avec le commutateur d'allumage défectueux. Pourtant, dès 2001, plusieurs techniciens font remonter à leur hiérarchie l'information selon laquelle un défaut de sécurité entrave le déploiement des airbags en cas d'accident. En 2005, des échanges de courriels entre ingénieurs confirment même que ces derniers ont pesé le coût financier qu'occasionnerait le remplacement de ce commutateur d'allumage avant d'y renoncer. Et c'est à l'ensemble de ces questions qu'a dû répondre Marie Barra, la patronne de General Motors. Entendue par les membres du Congrès début avril, cette dernière a affirmé qu'elle n'avait pas été mise au courant, ou du moins qu'elle avait été mise au courant des problèmes liés au commutateur d'allumage qu'en décembre dernier. Alors, c'est difficile à croire pour les élus qui précisent que l'ex vice-présidente du développement des produits du groupe était bel et bien au courant, et ça depuis 2011.
Depuis 3 ans maintenant. Merci beaucoup Eridel Ntema d'être venu répondre à Mokhtar. On s'excuse Mokhtar, le réseau téléphone n'était pas très bon. En tout cas, merci de votre fidélité à Richard Toll, au nord du Sénégal où il est 8h16. 33 9 693 693 70. Vos questions à la rédaction. Alexandra Bronjon, notre correspondante en Afrique du Sud, est en ligne. Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct. Abdallah de Paris a des questions concernant l'Afrique du Sud, et ce à 2 semaines maintenant des élections législatives et présidentielles. Et il nous demandait au standard, vu les différents scandales qui ont secoué ces derniers temps l'ANC, donc le parti au pouvoir, est-ce que ces scandales peuvent empêcher l'ANC de remporter la majorité aux législatives du 7 mai? C'est une bonne question, d'autant que récemment, Jacob Zuma, quand même le président sud-africain, a été sifflé par des Sud-Africains, ce qui est quand même rare. L'ANC a des chances de ne pas avoir la majorité dans 2 semaines ?
Absolument pas. Non, l'ANC est majoritaire et de loin. Aux dernières élections en 2009, le parti a remporté 65,9% des voix. En revanche, la question est plutôt de savoir si ces scandales vont peser et réduire cette majorité. Alors, vous l'évoquiez, les scandales. Le dernier en date, donc, c'est le scandale de Nkandla. C'est l'utilisation de fonds publics pour rénover la résidence privée du président. C'est un très gros scandale. On parle de sommes importantes, 16 millions d'euros. Tout le monde s'accorde à dire, y compris à l'intérieur de l'ANC, qu'il y a eu mauvaise gestion, abus, voire corruption. Et pourtant, l'impact sur le vote de l'ANC ne semble pas être important, ou même est difficile à mesurer. Dimanche dernier, il y a eu un sondage qui pronostiquait une victoire de l'ANC, donc dans 2 semaines, avec 65,5% des votes, donc quasiment inchangé. Alors pourquoi peu d'impact? Un, parce que le parti fait bloc derrière son leader avant les élections, même s'il y a des dissensions en interne, on serre les coudes. Deux, parce que l'ANC, ça reste quand même le parti qui a libéré des millions de Sud-Africains noirs, et les gens ont du mal à imaginer de voter pour quelqu'un d'autre. Et puis parce que les gens font la distinction entre l'ANC et Zuma. Même s'ils ne sont pas satisfaits avec Jacob Zuma, ils votent ANC parce qu'ils sont d'accord avec avec la politique du parti. Voilà. Ensuite, les sondages, ça reste un sondage. Donc cette élection va être test. 20 ans après l'arrivée de la démocratie, on va voir si les électeurs, et notamment les jeunes qui sont très très en colère, font toujours confiance à l'ANC.
Élection donc le 7 mai. Abdallah nous demandait si l'appel au boycott lancé par d'anciens poids lourds de l'ANC a des chances d'être suivi, d'être entendu. La réponse est non, mais enfin, c'est quand même une première, Alexandra Bronjon, que des anciens barons, et notamment l'un des piliers de la lutte anti-apartheid, Ronnie Kasrils, appelle à boycotter l'ANC.
Oui, c'est vraiment surprenant. Alors, a priori, le boycott sera peu suivi. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelques semaines, des vétérans respectés de l'ANC, donc Ronnie Casseril, mais d'autres, sont sortis des rangs pour la première fois, vous l'avez dit, pour justement dénoncer cette corruption qui ronge le parti et le gouvernement. Parce qu'ils se rendent compte que les scandales s'accumulent et que ça influence l'opinion publique. Mais seul Casseril, donc l'ancien ministre des Renseignements, a appelé à ne pas voter l'ANC. Au contraire, les autres ont tous critiqué cette campagne, la qualifiant même de trahison. Ils disent qu'ils se sont battus pour le droit de vote, qu'il faut voter et il faut voter l'ANC. S'il y a des problèmes de corruption, disent-ils, il faut les régler en interne. Alors que Ronnie Casseril, lui, dit on n'arrive plus à réformer de l'intérieur. Au contraire, maintenant, il faut sortir et sanctionner. Il faut un certain courage politique pour faire ce qu'il a fait, parce que ça veut dire une mort politique. Toute la machine ANC s'est retournée contre lui. Alors, dans son cas, il n'a plus d'ambition, mais c'est quand même un sacré avertissement envers ceux qui voudraient sortir des rangs. On ne lave pas son linge sale en public.
Effectivement, on le voit ces jours-ci, mais en tout cas, Casseril n'appelle pas à voter pour l'opposition, il appelle quand même à voter blanc.
Soit vous arrivez à voter pour un autre parti qui est proche de vos idées, et sinon, vous votez blanc.
Merci beaucoup Alexandra Branjon, bonne journée à Johannesburg. Je rappelle que vous êtes notre correspondante sur place. Abdallah, merci de nous écouter à Paris sur les 89 FM 33 9 693 693 70. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat du jour consacré à la loi d'amnistie en République démocratique du Congo. Elle est entrée officiellement en vigueur samedi dernier puisque la justice a publié la liste des 50 premiers bénéficiaires. Que pensez-vous de ces amnisties 33 9 693 693-693-70. Alejandro Valente, le chef du service des sports, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler football, comme à chaque fois que vous venez, à croire que le sport se limite au foot. Bouba, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à l'Abbé, vous nous appelez de Guinée, et vous avez plusieurs questions concernant le FC Barcelone.
Effectivement, depuis quelque temps, on assiste à des contre-performances notoires du club catalan du FC Barcelone. Une courte victoire en 4 matchs. Là-dessus, j'ai 2 petites questions. Est-ce que dans ces conditions, l'entraîneur du club devrait continuer à le manager? Deuxièmement, qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau de Lionel Messi, la pièce maîtresse du système d'attaque du jeu catalan?
Oui, Lionel Messi, qui a quand même marqué un but, et le but de la victoire dimanche face à Bilbao, mais Alejandro, on peut dire que c'était quand même un peu une exception. C'est vrai que le Barça, quand même, traverse probablement la pire des saisons de ces 5 dernières années.
Oh, il faut pas exagérer.
Non, disons que... j'exagère alors un peu.
il a traversé surtout une très mauvaise semaine, qui a fait que... Une équipe qui était en condition de remporter les 3 trophées majeurs en a laissé 2 en chemin et a peu de chance de remporter le dernier qui lui reste, à savoir la Liga.
Enfin, une saison sans trophée, c'est quand même une très mauvaise saison, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans au Barça.
Bien entendu, mais pour l'instant, la saison n'est pas terminée, donc déjà, ils peuvent être encore champions, même si c'est pas l'hypothèse la plus probable. Ils avaient gagné la Supercoupe d'Espagne également en début de saison. Mais c'est vrai que les bilans est très négatif à cause d'une très mauvaise semaine. Ça peut arriver une mauvaise semaine, mais quand ça arrive au moment clé de la saison, ça fait désordre. Et très certainement, comme le suggère notre ami Bouba, Tata Martino, l'entraîneur, va être le fusible, comme c'est souvent le cas dans ces grands clubs. Dès que les résultats ne sont pas là, c'est l'entraîneur qui saute.
Il y a des noms qui circulent déjà ou pas?
Oui, bien sûr. Je pense que les directeurs sportifs subissent un état en faible pour Ernesto Valverde, qui est l'actuel entraîneur de Bilbao. Il faudra négocier donc avec l'Athletic Bilbao éventuellement. Il y a Luis Enrique, un ancien du club, qui est à Celta Vigo, qui est aussi dans la shortlist, on va dire, de la succession de Tata Martino. Mais avant cela, Barcelone doit régler d'autres problèmes, et notamment faire lever l'interdiction de recrutement qui a été prononcée à son encontre.
Alors, FIFA.
Voilà, ils ont entamé les démarches en ce sens et ils espèrent avoir une réponse positive d'ici une quinzaine de jours.
Ouais, c'est l'affaire du transfert de joueurs mineurs. Puis il y a une autre affaire qui a aussi secoué cette saison le Barça, c'est l'affaire Neymar les révélations autour de malversations concernant le transfert du joueur. Donc on voit bien le club est secoué par des affaires extra-sportives. Quid de Lionel Messi? C'est vrai qu'on il est un peu absent quand même sur le terrain, sauf dimanche dernier face à Bilbao, mais sinon, on a l'impression qu'il se préserve un peu là pour le mondial.
C'est ce qu'on dit, mais je n'y crois pas. Je pense que c'est pas des machines, les joueurs. Hein. Messi, quand même, dans l'ensemble, a réussi plutôt une belle saison. Il en est à 39 buts cette saison pour un joueur qui a été 3 mois absent pour blessure, c'est très bien. Il est sur les talons des Cristiano Ronaldo pour le titre des Pichichi, meilleur buteur de la Liga. Et il a marqué 24 buts depuis son retour de blessure il y a 3 mois. Cela dit, il a effectivement été un peu absent dans ces matchs qui ont coûté à Barcelone une grande partie de la saison. Alors, est-ce qu'il se préserve? Je n'y crois pas. Mais il semblerait qu'il ait été très affecté par la blessure du gardien Valdés. Alors, est-ce qu'il a inconsciemment pris peur de se blesser? On ne sait pas, parce qu'il ne s'en est pas expliqué. Il n'a parlé à personne, sauf peut-être à ses amis dans les vestiaires. Mais tout le monde laisse entendre qu'il va bien, qu'il se sent bien, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais bon, voilà. Pour l'instant, Messi a quand même manqué à Barcelone dans 2 ou 3 matchs importants.
On a répondu à vos questions, Bouba?
Oui, je vous remercie.
Merci à vous de nous écouter à l'abbé. Merci Alejandro Valente, bonne journée.
Bonne journée.
À vous, il est 10h25, nous accueillons Anissa El-Jabri du service politique d'RFI. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Claude de Kinshasa souhaite que l'on revienne sur le nouveau gouvernement en France. Il a 2 questions. Pourquoi François Hollande a-t-il choisi Harlem Désir comme secrétaire d'État aux affaires européennes alors qu'on le tient responsable de l'échec du Parti Socialiste aux élections municipales? C'est vrai que la nomination d'Harlem Désir fait polémique.
Oui, alors déjà, ça faisait des mois que le sort d'Harlem Désir était scellé. Évidemment, il y a eu le prétexte des municipales, entre autres parce que c'était l'occasion pour un grand chamboule-tout dans la majorité. Mais ça faisait longtemps que chez les socialistes, tout le monde ou presque voulait qu'il parte. Mmh. Alors, d'ailleurs, les exemples de ça, c'est que la rue de Solferino, sous sa direction, tout le monde l'a surnommé l'astre mort. Et puis Harlem Désir, vous savez, c'était la grande figure des SOS racisme dans les années 80. Et ben, depuis qu'il était à la tête du PS, on surnommait SOS charisme. Donc ça en dit long sur l'estime que ses camarades lui portait. Et François Hollande disait même de lui en privé, il est nul. Ah oui. Donc ça faisait des mois qu'on posait la question, qu'est-ce qu'on va faire avec Harlem Désir, comment on peut le sortir? Et ce qui était beaucoup dit autour du président, c'est compliqué parce que maintenant, un premier secrétaire du PS, avec les nouveaux statuts du parti, il est élu directement par les militants et ça ne se fait qu'à l'occasion d'un congrès. Le prochain est prévu pour mémoire en 2015. Donc il fallait trouver une solution et la seule qui était possible,
c'était donc de l'ex-filtré.
De l'exfiltré, voilà.
De la rue de Solferino.
De le nommer au gouvernement. Et puis Harlem Désir, et bien conscient du fait que tout le monde voulait qu'il parte, s'était décidé à vendre chèrement sa peau. Et autour du président, on l'a beaucoup dit, ça a été difficile de négocier avec lui. Et puis finalement, on s'est même arrêté sur un poste de secrétaire d'État. Secrétaire d'État, il faut le savoir, ne siège pas au Conseil des ministres. Et puis c'est même encore mieux que ça, parce qu'en fait, même si on dit c'est très triste, parce que les affaires européennes, c'est un gros dossier, donc d'avoir récompensé quelqu'un qui ne réussit pas en le nommant à ce gros dossier. Finalement, tout ça, ça sera piloté à l'Élysée et au Quai d'Orsay.
Autre question toujours posée par Claude de Kinshasa. Comment expliquer que le portefeuille du commerce extérieur se retrouve au Quai d'Orsay alors qu'il a longtemps été rattaché à Bercy? Alors, c'est vrai que c'est une première dans la Ve République.
C'est une première, mais en fait, ça fait longtemps que les ministres des Affaires étrangères font du lobbying là-dessus. Alain Juppé, déjà, voulait faire de la diplomatie économique et c'est entre guillemets, une lutte d'influence que même lui n'a jamais gagnée. Laurent Fabius l'a gagnée parce que déjà, dès qu'il est arrivé au Quai d'Orsay il y a 2 ans, il a dit que pour lui c'était quelque chose de très important. Mmh. Et puis ensuite, parce que c'est un des rares ministres aujourd'hui qui est un poids lourd, qui est considéré comme respecté, qui ne fait pas de couac. Donc, quand ce que veut Laurent Fabius aujourd'hui, il l'obtient. Alors maintenant, sur le fond, l'idée c'est de dire que voilà, quand on concentre les moyens de l'État à l'étranger, ça renforce la force de frappe de l'action de la France dans le monde, que les exportations aujourd'hui, elles sont guidées en large partie par les efforts diplomatiques, notamment pour les contrats décrochés dans les grands pays émergents. Et l'enjeu, c'est de rééquilibrer la balance commerciale française.
Elle est à 62 milliards, 63 milliards, je crois.
Voilà. Ouais. Surtout par rapport à l'Allemagne, on dit que la France pourrait faire quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On va pouvoir vérifier très vite si ça marche, en fait.
Merci beaucoup, Anissa El-Jabri, d'être venue répondre à Claude, qui nous appelait donc de Kinshasa. D'autres questions à la rédaction? Demain, d'ici là, appelez-nous. Le standard reste ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions par courrier électronique. Appel au pluriel .actu@rfi.fr. Dans 10 minutes maintenant, notre débat. Nous vous donnerons prendront la parole pour commenter la loi d'amnistie en République démocratique du Congo, une loi promulguée au mois de février. Elle fait suite à cet accord conclu en décembre dernier. C'était l'un des engagements du gouvernement congolais face aux rebelles du M23. Eh bien, depuis trois jours maintenant, nous connaissons les premiers amnistiés. 33 9 693 693 70.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.